Brief Me, édition du 7 mai 2024.
Dans Brief Me aujourd'hui, une offensive israélienne sur un poste frontière de Rafah, l'interdiction de la capture des alouettes et une grenouille en plein ménage.
On rembobine.
Antisémitisme. Sur le premier trimestre 2024, plus de 4 actes antisémites par jour ont été perpétrés en France, en hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023, a déclaré hier le Premier ministre, Gabriel Attal, lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Depuis le 7 octobre, c'est bien à une explosion de haine à laquelle nous assistons, a-t-il expliqué, en référence à l'attaque terroriste du groupe islamiste Hamas en Israël.
Flamanville. À l'issue de son instruction, l'Autorité de sûreté nucléaire, une organisation indépendante qui agit au nom de l'État, a annoncé aujourd'hui avoir autorisé la mise en service du réacteur EPR de Flamanville. Originellement prévue pour 2012, cette mise en service est désormais programmée pour la fin de l'année. Promu par EDF, l'EPR est la dernière génération de réacteurs nucléaires.
SNCF. Le président directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, en poste depuis 2019, ne quittera ses fonctions à la demande de l'État qu'une fois les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 terminés afin de garantir leur bonne organisation, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Économie. Son mandat devait se terminer le 13 mai prochain, mais il pouvait être renouvelé jusqu'à l'été 2025.
Vietnam. Des responsables politiques français ont assisté aujourd'hui pour la première fois au Vietnam à la cérémonie nationale de commémoration de la bataille de Dien Bien Phu. Cette bataille, qui a opposé il y a 70 ans les troupes françaises à celles du Viet Minh, a amorcé la fin de la guerre d'Indochine. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, ainsi que la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales, ont rendu hommage aux soldats français qui ont combattu dans la plaine de Dien Bien Phu.
Diplomatie. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé aujourd'hui une volonté de manipulation de l'information et d'intimidation de la part de la Russie après la convocation, hier, de l'ambassadeur français par le ministère des Affaires étrangères de Russie. Celui-ci a dénoncé des déclarations de plus en plus belliqueuses des autorités françaises. Emmanuel Macron a réaffirmé la semaine dernière dans une interview à The Economist la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine.
Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a été investi aujourd'hui pour un cinquième mandat à la tête de la Fédération de Russie. Il avait été réélu en mars avec plus de 87% des voix, dans une élection au déroulement contesté par de nombreux pays et par des opposants russes. Si la plupart des pays européens n'ont pas envoyé de représentants, l'ambassadeur de France était présent à la cérémonie d'investiture. La France n'est pas en guerre avec la Russie ou le peuple russe, a déclaré hier Emmanuel Macron.
Tout s'explique.
L'armée israélienne prend le contrôle du poste frontière de Rafah.
Israël a mené cette nuit une offensive sur Rafah, le principal point de passage de l'aide humanitaire vers Gaza.
Hier soir, le Hamas a formulé une proposition de cessez-le-feu qu'Israël a refusé.
Où en est l'avancée des troupes israéliennes sur Rafah ?
L'armée israélienne a déclaré ce matin avoir pris le contrôle du côté gazaoui du poste frontière de Rafah, ville du sud de l'enclave à la frontière égyptienne. Des frappes dans la nuit ont fait de nombreux morts, a rapporté sur Telegram la défense civile palestinienne. Après la fermeture dimanche par Israël du poste frontière de Kerem Shalom, celle du point de passage de Rafah a pour effet de couper tout acheminement d'aide en provenance d'Égypte. Hier, l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation des quartiers situés à l'est de la ville, mais pas de la zone où se trouve le poste frontière. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié ce matin de dangereuse escalade la prise de contrôle du poste frontière par Israël. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu'un assaut généralisé sur Rafah serait une catastrophe humaine. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 1,2 million de civils se trouvaient à Rafah fin avril.
Pourquoi l'armée israélienne cible-t-elle Rafah ?
L'armée israélienne affirme que des bataillons du Hamas opèrent depuis Rafah. Dans son communiqué de ce matin, elle écrit avoir tué cette nuit 20 terroristes, confisqué des dizaines d'équipements militaires, localisé trois puits opérationnels du Hamas et détruit des bâtiments militaires et des infrastructures souterraines. Israël justifie également son attaque par le fait que dimanche, des roquettes ont été tirées depuis le passage de Rafah en direction du passage de Kerem Shalom, tuant 4 soldats israéliens. Le Hamas a tiré aujourd'hui 4 autres mortiers depuis Rafah en direction du territoire israélien, selon l'armée israélienne. Le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a également déclaré hier soir que l'offensive avait pour but de faire pression sur le Hamas pour faire avancer la libération des otages.
Pourquoi les négociations pour un cessez-le-feu ont-elles de nouveau échoué ?
Hier soir, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de cessez-le-feu contre une libération d'otages formulée par Israël fin avril, mais après y avoir apporté des modifications. D'après l'agence de presse Reuters qui l'a consultée, la proposition amendée prévoyait un cessez-le-feu de 42 jours et la libération par le Hamas de 33 otages contre 30 libérations de prisonniers par Israël pour chaque otage du Hamas libéré. Ce week-end, le Hamas a maintenu des exigences maximalistes, c'est-à-dire le prérequis d'un cessez-le-feu permanent. Cela était inaudible pour Israël, a expliqué aujourd'hui le chercheur David Rigoulet-Rose à France Culture. Le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré dans la soirée que les propositions du Hamas étaient loin de correspondre aux demandes principales d'Israël, tout en annonçant l'envoi d'une délégation en Égypte dans le but de trouver un accord.
C'est leur avis.
Xi Jinping visite l'Europe en stratège.
Après une visite d'État de 2 jours en France, le président chinois, Xi Jinping, poursuit sa tournée européenne en Serbie à partir de ce soir avant de se rendre en Hongrie, deux pays proches de la Russie. Dans une chronique publiée hier dans le Financial Times, le journaliste Gideon Ratchman explique que ces 3 pays ont fait l'objet d'un choix minutieux.
Si vous faites votre premier voyage en Europe depuis près de 5 ans, un itinéraire en France, Serbie et Hongrie paraît un peu excentrique. Mais les 3 étapes choisies par le dirigeant chinois sont parfaitement logiques du point de vue de Pékin. Pour des raisons stratégiques et économiques, la Chine veut perturber l'unité de l'OTAN et de l'Union européenne. Chacun des 3 pays visités par Xi est un levier potentiel pour fracturer l'Occident. Dans un discours prononcé à Paris le mois dernier, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré que l'Europe ne devait jamais être un vassal des États-Unis, des mots qui ont les faveurs de la Chine. La Serbie se situe en dehors de l'Union européenne et de l'OTAN, tandis que la Hongrie a sapé ses 2 organisations de l'intérieur. Les 2 pays sont amis de la Russie. La réception prochaine par Xi de Vladimir Poutine à Pékin renforcera l'inquiétude des Européens quant aux intentions réelles de la Chine. Gideon Ratchman.
Ça alors.
La chasse aux alouettes interdite en France.
Le Conseil d'État a définitivement interdit hier la capture des alouettes des champs au moyen de filets, pentes ou de cages, matoles. Saisie par 2 associations de défense des animaux, la plus haute juridiction administrative en France a abrogé 2 arrêtés pris en octobre 2022 autorisant ces chasses traditionnelles dans plusieurs départements, les jugeant non conformes au droit européen. Adoptée en 2009, une directive européenne, dite directive oiseaux, interdit les techniques de capture massive d'oiseaux, sauf en l'absence de solutions alternatives. Le Conseil d'État a estimé que la volonté de préserver les chasses traditionnelles, mise en avant par les arrêtés, n'était pas suffisante. Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, qui salue la décision, l'alouette des champs a perdu 1/4 de sa population française ces 20 dernières années. L'an dernier, le Conseil d'État avait déjà interdit la chasse à la glue et un autre mode de capture traditionnel, la tenderie.
Ça vaut un clic.
Une grenouille qui fait le ménage.
Pour Frog, c'est le grand ménage de printemps. Animée en stop motion, une grenouille tricotée range son salon miniature, passe l'aspirateur, lave les vitres et tombe de fatigue quand tout est impeccable. C'est l'œuvre de la créatrice britannique India Rose Crawford, qui poste sur Instagram d'adorables scènes de vie imaginant le quotidien douillet des personnages qu'elle tricote.
Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sans oublier de vous ménager.
Cette édition a été réalisée par Julie Bringer, Laurent Mauriac et Marie-Liévine Michalik.